Entrée de Jésus à Jérusalem. Nous sommes souvent un peu partagés face à cette fête. C'est une fête ambivalente. Nous sommes dans la joie car ce dimanche est la porte d'entrée dans la Semaine Sainte et peut-être nous sommes déjà impatients de franchir une à une les étapes qui nous mèneront au tombeau vide du dimanche matin. Malgré cette joie, nous sommes aussi dans la réserve, car nous savons que cette foule qui l'acclame va aussi réclamer sa crucifixion face à Pilate dans quelques jours. Et il n'y aura plus grand monde ensuite au pied du Christ souffrant. Alors que fêtons-nous au rameau ? Regardons le texte et l'attitude de Jésus. Et encore une fois, le texte biblique nous prend à revers. Dans l'évangile de Marc, l'épisode des rameaux ne laisse aucune place à l'ambivalence. De façon surprenante, on voit Jésus se promenant. Le texte nous donne la sensation que Jésus effectue une promenade d'agrément à Jérusalem. Jésus ne se comporte pas en prétendant messianique et pas non plus en chef populaire, mais en visiteur. Le texte commence par des considérations topographiques. On lit que le groupe qui monte à Jérusalem passe près du mont des Oliviers vers Bethphagée et Béthanie. La finale aussi est assez surprenante. Au verset 11, Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Tout se passe comme si Jésus et les disciples effectuaient un tour organisé à Jérusalem, à dos d'âne. Et à la fin de la journée, les visiteurs retournent dans le pied-à-terre de Béthanie. Nous savons que parmi les évangiles, Marc est celui qui s'en tient le plus aux faits. Chez Marc, dans ce récit, nulle colère, nulle larme. Que nous dit alors cette promenade ? Et comme souvent dans le texte biblique, un petit grain de sable vient se glisser dans l'itinéraire. Si vous avez la curiosité de regarder sur un plan, Béthanie, qui se trouve à 3 km de la capitale, aurait dû être citée avant Bethphagée, qui se situe environ à 1 km. Or, le texte dit l'inverse. Soit le rédacteur de Marc est vraiment très mauvais en géographie, soit il n'avait pas l'intention de nous décrire un itinéraire précis en nous disant que l'important est ailleurs. Ce texte, en effet, a tous les aspects d'un texte commémoratif de l'arrivée du Maître, et ce texte est liturgique. Trois éléments marquent cette volonté. L'envoi des deux disciples ressemble fortement à l'introduction de la scène, où Jésus envoie de la même façon les deux disciples dans la maison. La mention du Mont des Oliviers, lieu de l'abandon des disciples qui n'arrivent pas à veiller, lieu encore de la trahison de Judas et de l'arrestation de Jésus, comme anticipation de ce qui va advenir. Enfin, la reprise textuelle de deux psaumes, le psaume 118, que nous avons lu tout à l'heure pour la louange, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », et puis le psaume 148, Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Que fêtons-nous au rameau ? C'est une fête liturgique. Une fête qui remonte à l'Église primitive. Une fête qui célèbre l'entrée dans la ville et au temple. Une fête qui rythme et qui manifeste pour nous l'entrée dans la Semaine Sainte. Comment maintenant pour nous entrer dans cette semaine? Peut-être en allant au bord de la route, couper quelques branches pour saluer l'entrée du Maître. Peut-être entonner des psaumes. Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna. Hosanna, cela ne veut pas dire « Hourra, youpi, hop là ». Non, Hosanna, c'est « Sauve, délivre, donne la victoire ». La foule n'acclame pas Jésus, elle l'exhorte, elle l'appelle « Sauve-nous ». Sauve-nous, mais de quoi ? L'occupant romain est ici sous-entendu. Sauve-nous et rétablis le règne de David. À notre époque, nous dirions « Sauve-nous du mal-être ambiant, des inégalités, de la catastrophe écologique. » Nous dirions aussi « Sauve-nous de nos familles désunies, de la maladie, de la jalousie. » Sauve-nous de nos échecs, de notre orgueil, de notre foi trop frileuse. Nous savons bien qu'à l'époque, Jésus n'apportera pas la délivrance de l'envahisseur romain et ne restaurera pas la puissance du règne de David. La foule avait tort sur l'objectif de l'exhortation adressée à Jésus. Elle avait en revanche juste dans son attitude, une attitude de repentance. Sauve-nous. Et c'est peut-être cela le véritable cri des rameaux. Un cri d'impuissance, de repentance, en interpellant celui qui peut tout. Jeter ses vêtements, se dépouiller nous-mêmes pour nous mettre à nu devant lui. Faire du vide. Et n'est-ce pas là aussi la mission de notre service d'entraide ? Faire du vide en soi-même pour se libérer et laisser de la place pour les autres, pour le tout autre, pour cette mission qui nous est donnée de prendre soin des plus fragiles, des plus petits. Être dans le creux, être en veille, c'est peut-être cette attitude que nous sommes appelés à avoir au bord de la route de la vie. Et toute l'histoire de Pâques est sûrement aussi dans ce dépouillement, dans ce vide, finalement dans le samedi. Vous savez, le samedi, c'est le jour du rien, du vide, entre la mort et la résurrection. Pour que jaillisse la résurrection, il faut la mort. Pour qu'il y ait la vie, il faut le vide du tombeau. Pour que naisse la foi, il faut un dépouillement intérieur. La fête des rameaux, comme fête liturgique, comme fête du dépouillement devant Jésus, monté sur un âne. Un âne, l'image d'Épinal des rameaux. Image sûrement humoristique, instant de légèreté de celui qui prend tout le monde à revers. Point de belle monture, de cheval blanc marchant d'un pas altier dans les rues de Jérusalem. Non, un âne, un petit âne. Animal familier que l'on trouvait partout, dans presque tous les foyers en ce temps-là. Comme aujourd'hui encore, il est présent sur les routes du Moyen-Orient. L'âne, animal domestique et agraire, qui s'oppose au cheval, monture royale et guerrière. Mais allons plus loin. Non pas tant sur l'âne, que dans cette parole, que Jésus adresse aux disciples. Vous trouverez un anon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous ceci ?» répondez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant il le laissera venir. Détachez-le et si on vous demande « Pourquoi ?» répondez « Le Maître en a besoin. » Détachez-le. Délier. Luo en grec. Voilà le cœur de l'Évangile. Qui est Jésus? C'est celui qui s'en vient délier tout homme, toute femme de ses chaînes, de ses peurs, de ses angoisses, de ses échecs. Délier et faire délier. Voilà encore une bonne nouvelle pour la fête des rameaux. Détachez-le, le maître en a besoin. Un message pour nous. Souvent, au rameau, nous nous arrêtons aux palmes, aux cris, aux attentes. Mais Jésus, lui, passe au travers de tout ça de façon impassible. Il regarde et s'en va. Peut-être que ce faisant, notre attention a été accaparée par le clinquant et détournée de l'essentiel. Détachez-le. Le maître en a besoin. 5 versets autour de l'anon, 3 autour de la foule. Et au centre, cette parole, détachez-le, le maître en a besoin. Une parole pour nous, comme une invitation au seuil de sa passion. Viens, libère-toi de tes chaînes en son nom. Le maître a besoin de toi. Amen.